jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Oh, ravi d'être avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, 2 heures de bonheur, car 2 heures d'after. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, bien sûr, pour revenir sur la suite de cette deuxième journée de Ligue 1. Pour nous accompagner ce soir, Sébastien Piocelle. Bonsoir, Seb.
Salut, Nico.
Ça va?
Oui, super.
Bien la journée?
Ouais, trop bien. T'en as bouffé un peu de match anglais, c'est ça, on aime ça, on est passionné.
Exactement. Samuel Dupont est tout aussi passionné, il aime ça lui aussi.
Comment tu vas, Nico?
Et toi, là?
Bonsoir, ça va?
Ça
écoute, on s'est inquiété un peu lors de la première mi-temps, après il y a eu quelques buts.
Ah bah, il y a un but en 5 matchs après 45 minutes. Merci Jules de Tavares, du côté de Dijon qu'on embrasse. 3 buts depuis le début de la saison, on va y revenir dans quelques instants.
On voit que ces équipes-là, un peu dites moins des petites équipes, on voit qu'elles surprennent en ce début de championnat, c'est bien. Elles jouent, elles procurent du jeu, elles marquent des buts, plus des beaux buts.
Et c'est donc la reprise en Ligue 1. Vous savez que c'est la rentrée également lundi sur RMC. Il y aura Vincent Moscato qui sera de retour, Christophe Dugarry également. Tous les lundis, le show rugby de RMC entre les poteaux avec Philippe Saint-André, Denis Charvet et Yannick Nyanga également. Et donc Tim Dugas qui est de retour lundi à 18h avec notamment Jérôme Roten. Les résultats de cette deuxième journée de Ligue 1. Hier, première surprise, Reims a battu Lyon 1-0. Cet après-midi, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer 3-1 à Guingamp. Pas de but entre Monaco et Lille avec notamment un péno loupé par Falcao. Dijon a battu Nantes donc grâce à un doublé de Julio Tavares. Rennes a battu Angers 1-0. Montpellier est allé s'imposer 2-1 à Amiens et match nul 1-partout entre Caen et Nice. Demain 15h, match à suivre sur RMC, Strasbourg-Saint-Etienne. À 17h, Toulouse-Bordeaux. Et puis à 21h, le grand retour de la D1, j'allais dire, parce que c'était comme ça à l'époque, la dernière fois qu'ils étaient en D1 au Stade des Costières. Et voilà, Nîmes qui va retrouver l'élite du football français à domicile. Ce sera demain face à l'Olympique de Marseille. Match à suivre à partir de 20h. Sur RMC, je vous donne un petit résultat de Ligue 2 également, match comptant pour la quatrième journée. Lens a battu 3-0 et puis il y a des résultats à l'étranger également. On y reviendra en détail sur ce qui s'est passé en Angleterre, en Italie et en Espagne également. Est-ce qu'il y a un match qui vous a plus marqué ce soir là, avant de rentrer dans le détail là, parmi les affiches de ce soir? Il n'y a pas eu énormément de buts, on l'a vu.
Non, j'ai bien aimé Montpellier par rapport notamment au but de Mollet. Je trouve que c'est une équipe qui s'est bien renforcée là avec les arrivées de Delors et Laborde. Ils s'étaient mis mal en point sur le premier match, ils ont perdu à domicile. C'est une bonne réaction de leur part.
Ouais, victoire 2-1 de Montpellier face à Amiens. Quoi, ça?
Moi, j'attendais Lille. Je voulais voir un peu comment allait être leur second match après la bonne entame qu'ils ont eue. Bah, je trouve qu'ils font un bon déplacement. Ils obtiennent un bon nul à Monaco. C'est pas évident d'aller toujours gagner à Monaco, même si on sait que Monaco a une équipe qui aura du mal cette année. Mais bon, je crois que le point obtenu à lui deux est excellent et de bon augure pour l'avenir.
Eh ben, tu sais quoi, on va commencer par ça. Ça commence bien par le Monaco-Lille. Tiens, première affiche de la soirée. 0-0 entre les deux équipes. Alors, avec notamment un pénalty qui a été loupé par Falcao, ou arrêté d'ailleurs par le portier lillois. À vous de voir comment vous préférez voir ça. C'est vrai que Lille confirme, qu'il s'était imposé 3-1 lors de la première journée. Et Monaco, donc, qui a accroché à domicile finalement. José Font était qualifié, Thiago Maia l'a été également ces derniers jours. Petit à petit, les problèmes administratifs sont en train d'être réglés également. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce match, Sam, du coup?
Ben après, il n'y a pas grand-chose qui m'a plu, mais je vais surtout voir un peu comment allait se comporter cette équipe lilloise après les problèmes qu'ils ont eu l'année dernière, leur entame de championnat qui est plutôt bon. Donc, je voulais un peu voir si ils allaient confirmer. Je trouve qu'ils ont confirmé, ils ont été solides. Ils ont souvent été dans le dur parce que, bon, il y a quand même eu un certain pressing de cette équipe monégasque. Mais sinon, je trouve que Pépé, il a eu une petite occasion de pouvoir ouvrir le score. Non, je trouve que ça confirme, surtout offensivement, on voit de bonnes choses.
Ouais, l'impression qu'il me donne, en fait, c'est que ce type de match-là, l'an dernier, il aurait certainement perdu. Et là, le gardien a été décisif. On sent aussi qu'il y a un vécu. Ils ont vécu vraiment une année galère. Et voilà, ils commencent à se connaître. Il n'y a pas eu énormément de changements. Alors, l'an dernier, c'était compliqué. Et la jeunesse, quoi qu'il arrive, il y a du talent dans cette équipe-là. Et comme j'ai dit l'an dernier, ils auraient sûrement perdu ce match. Et là, ils ont obtenu un bon point à Monaco.
Ouais, de toute façon, c'est ce genre de match, quand même, il faut savoir faire le dos rond. Ils ont su le faire, sachant que peut-être qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas énormément d'occasions. Ils ont été défensivement solides. Au milieu de terrain, ça a été aussi intéressant. Même si, effectivement, pour répondre à ta question, je pense que le gardien a fait un exploit. Il a vraiment arrêté. Je crois pas que
Mike Maignan.
Ouais, je crois pas que c'est Falcao qui rate. Il faut savoir quand même redonner le mérite au gardien.
Monaco, vous en avez pensé quoi? Monaco qui avait gagné lors de la première journée 3-1. Dans le jeu, c'était pas fou hein, face à Nantes. Hein. Ils avaient laissé le ballon aux Nantais. C'était très pragmatique. C'est un peu à l'image de ce que fait Monaco ces derniers mois d'ailleurs. C'est pas fou hein, dans le jeu, Monaco. Hein.
Non, eux, contrairement à Lille, justement, ils sont en pleine reconstruction. Donc déjà, c'est pas évident. Ils ont changé complètement le milieu de terrain. Il y a Falcao qui est revenu un petit peu sur le tard. Ils sont en train de chercher la meilleure formule offensive, notamment avec Jovetic, avec Falcao. Donc ça se cherche un petit peu. Moi, je les ai trouvés moyens. Bon, à Nantes, je pense que c'était voulu hein, de laisser la possession à Nantes. D'ailleurs, on a vu que Nantes avait encore eu pas mal de possession ce soir, et pour l'instant, ça fonctionne pas. Et ils ont joué en contre. Là, Lille a été un peu plus malin, je pense. Donc sur ce match-là, ils ont laissé un peu plus le ballon à Monaco. Ils n'ont pas été trop mis en danger. Ils ont laissé venir, et bon, Monaco, pour l'instant, ça a manqué on va dire d'exploit individuel devant, ce qui des fois les a sauvés l'an dernier.
On va accueillir Mathieu, supporter de l'ASM, qui nous a appelé au 32-16. Il est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir Mathieu.
Salut les amis.
Bonsoir Mathieu.
Alors Mathieu, selon nos informations, tu t'es un peu emmerdé pendant le match.
Bah ouais, je me suis ennuyé. Franchement, je m'attendais à une victoire de l'ASM limite facile. Et puis finalement, on s'est un peu embourbé quoi dans ce match. On a cherché à courir après le ballon face à une équipe qui, sur le papier, normalement est moins forte que nous. Et puis Falcao pas du tout dans le match. J'ai trouvé, il passait toujours à côté. Beaucoup d'erreurs au niveau des passes sur le milieu de terrain. Genre Eudes. Et voilà, et puis on perdait trop souvent le ballon, et franchement Lille limite aurait pu gagner, ça m'aurait pas choqué quoi.
Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est quoi, enfin je sais pas ce que t'en penses Mathieu, est-ce que tu fais pas quasiment la même analyse sur une bonne partie du match de la semaine dernière face à Nantes?
Ben non, parce que en fait face à Nantes c'était vraiment voulu, comme je sais pas qui a dit ça, fallait laisser la balle.
Ouais, c'est Sébastien Brossel.
Ouais, c'est une belle analyse parce que c'était voulu, et en fait on a tué le match en fin de match. Je pense que c'était la tactique Jardim. De toute façon, on savait que Nantes allait jouer haut.
Mais tu aurais eu la même analyse, Mathieu, si Falcao avait marqué le penalty, qui aurait eu 1-0?
Pas du tout, parce qu'on voyait qu'au début du match, on cherchait pas à laisser le ballon, on cherchait à la récupérer, justement, et on était pris assez facilement par les Lillois dans nos 16 derniers mètres. Après, les Lillois, voilà, ils cadrent pas. Franchement, avec les occasions qu'ils ont eues, ils auraient vraiment pu gagner le match. Pour moi, c'était pas choquant. Et voilà, c'est pas du tout le même système, le même mode de jeu que la semaine dernière. Moi, la semaine dernière, j'étais serein pendant le match de contre Nantes, parce que je savais que le coaching allait être payant. Ça se voyait de toute façon que Jardim attendait vraiment le bon moment pour faire ses changements, et il les a fait. Là, ce soir, je me disais, mais qui va faire rentrer pour essayer d'apporter quelque chose? Bon, Goebbels, malheureusement, il est rentré que 10 minutes, on peut pas savoir ce qu'il
veut. Goebbels.
Goebbels.
Ouais, va pas l'appeler comme ça, il aime pas trop. Petite référence historique qui lui plaît pas, si tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est vrai en plus. Hein.
Oui, non mais
voilà. Voilà. Goebbels.
Voilà.
Et Monsieur Goebbels d'ailleurs. Et voilà, et puis après moi le petit Diop, je pense qu'il va apporter à la SM. Ça fait un moment que je le dis. C'est un gamin qui sort du centre de formation de Rennes. Il a fait deux matchs pas mal, un contre le PSG, même si on a pris la flotte, lui il était là. Et la semaine dernière. Donc là, ce soir, il est rentré à 15 minutes de la fin. On n'a rien pu voir. Mais je pense que ce petit-là, à mon avis, il va faire quelque chose.
Ouais, on a vu également une stat défilée sur RMC Sport News. Un tir cadré pour les Monégasques hein, dans ce match hein, quand même. C'est pas beaucoup. Alors, ok, c'est des statistiques.
Au bout d'une demi-heure.
Ouais, c'est. Bah, de toute façon, c'était un peu le problème de toutes les affiches de soir.
Nicolas, j'ai envie de te dire que je crois que cette année, on va pas vivre énormément de spectacles à lui.
Ah bah non, la première journée c'était dingue, Sam. On peut pas dire ça.
Attends, je parle de Monaco. Je parle de Monaco.
Oui, mais première journée c'était dingue. Non, peut-être pas. Non. Non, je déconne.
D'accord.
Non, mais c'était voulu, comme dit Mathieu.
Je crois que vivement que revienne Golovin, pour qu'on voie un peu un joueur qui sache un peu animer la partie offensive, parce que offensivement, on voit que même Falcao ou Jovetic sont un peu sevrés, un peu de ballon. Je crois que la seule satisfaction ce soir, c'est le gardien de but. Sincèrement,
Benaglio, qui a remplacé Subasic. Ouais.
Sincèrement,
c'est un très très bon gardien.
Ah, s'il fallait faire un choix, moi, honnêtement, je préfère lui à Subasic. Hein. Sincèrement, au moins, Subasic.
Par rapport à Monaco, il y a un talent fou. Hein. Ils font un recrutement, ils sont de partout, ils prennent beaucoup de jeunes. Et je fais confiance quand même à Jardim. On l'a vu quand même depuis pas mal d'années. Il était un peu décrié au départ.
Ouais, mais il y a peut-être un moment où ça peut s'enrayer aussi un petit peu, non?
Non, moi, enfin, j'y crois pas trop. Ils ont gardé la même charnière centrale. Il y a Sidi B qui va revenir. Il y a une bonne assise. C'est juste un peu au milieu, comme tu disais, dès que Golovin va arriver. Parce que lui, c'est un top joueur.
Là, il a perdu. Jardine, c'était quand même perdu les deux joueurs qu'il a le plus entraîné en carrière. C'est-à-dire Fabinho et Moutinho. C'était vraiment deux joueurs qui étaient importants pour lui dans l'entrejeu.
Oui, après, Moutinho, c'est un choix. Hein, je crois qu'au prix, ils l'ont vendu. Je pense qu'il a validé le départ.
Qui ça?
De Moutinho, je pense au prix. Autant Fabinho, bon, c'était un gros chèque.
Ouais.
Autant Moutinho, je pense, c'était voulu pour laisser justement la place maintenant aussi à Tielemans, aux plus jeunes.
Non, mais de toute façon, on voit que les intentions de jeu côté Monégas ne sont pas encore claires. Quoi. On voit que Tielemans ou Oulu sont encore un peu en dents de scie. On ne sait pas trop. Quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est un coach qui va s'adapter aussi à la qualité de ses joueurs. Là. C'est fini. Les Mbappé, il y a d'autres joueurs maintenant. Il va s'adapter aussi aux joueurs qu'il a. Il va peut-être, c'est vrai que je disais qu'il cherchait un petit peu la meilleure formule offensive. On est en début de saison, ça tâtonne un peu, c'est un petit peu logique.
Bah, c'est vrai que Falcao,
4 points en deux matchs là aussi.
Bien sûr, mais comme Lille d'ailleurs. Mais c'est vrai que le duo Falcao-Jovetic, il n'était pas très fan Jardine la saison dernière. Aujourd'hui, il est obligé de s'appuyer là-dessus. Hein. T'allais dire, toi, Mathieu, ce qui te marque, toi, c'est les phases de transition, c'est ça?
Non, en fait, je disais que c'était sûrement une année de transition cette année pour la Monaco. Je pense que ça va l'être. Et ouais, c'était pas loin. C'est pas la même formule, mais ce que je me dis, c'est que avec tous les jeunes que Jardim a à sa disposition, il a du boulot. Mais pour un entraîneur, je pense que c'est excitant quand même de viser podium avec énormément de jeunes joueurs.
C'est ce
comme
que
ça.
Dit lui en tout cas. Lui il dit, je préfère. Pour moi, le challenge est plus intéressant de devoir à chaque fois me remettre en question. Alors bon, après c'est un discours aussi. Hein, mais cela dit, la thèse du cette année c'est une année de transition. Franchement, Mathieu, c'est tous les ans la même histoire hein, maintenant.
Bien sûr, non, mais en fait quand je dis année de transition, c'est pour moi c'est la première année en fait où on a énormément de jeunes et on a de moins en moins de joueurs confirmés dans cette équipe. Et c'est un pari risqué, je trouve, de la part des dirigeants de l'ASM. Moi, j'aurais pris un ou deux tauliers, quand même, des mecs d'expérience pour appuyer ces jeunes-là. Maintenant, je sais pas, je pense que le mercato est pas fini. Peut-être une ou deux arrivées, deux joueurs d'expérience.
Mathieu, l'expérience, c'est pas que l'âge. Hein. Golovin, il est jeune, mais bon, il a une grosse expérience.
Ouais, c'est vrai qu'ils allaient chercher, tu sais, des Berbatov, des mecs. Enfin voilà, c'est vrai qu'ils étaient importants pour encadrer Falcao, Moutinho. Ouais, mais ils en ont toujours eu, tu vois, des joueurs comme
mais
ça.
C'est vrai qu'il y avait un certain.
Même Glick, il arrive, il a un certain âge déjà, une certaine, comme tu dis, une certaine expérience des matchs.
Moi, j'avais entendu que Marquisio était sur la potentielle de la.
Marquisio, il a annoncé à City ce soir au PSG. C'est pas des conneries hein. Il a annoncé à Monaco, il a annoncé partout Marquisio.
Voilà, un mec comme ça, moi franchement dans l'effectif, ça, c'est quand même un mec qui a du ballon, c'est un mec qui a de l'expérience, c'est un mec qui a gagné énormément de titres. Moi je pense qu'il manque un ou deux joueurs comme ça, confirmés. Même avec de l'âge, je m'en fiche, du moment que ces mecs là donnent conseil aux jeunes et les appuient. Parce que là aujourd'hui nos tauliers c'est qui? Raji, Falcao, c'est tout.
Mais tu vois, c'est quand même
il y a quand même
très longtemps où parce que par rapport à ce que tu disais l'année de transition que c'est la première année on peut se dire que on sait pas si vraiment Monaco sera parmi les trois premiers quoi. C'est la première fois qu'on aura peut-être ce doute quoi. On se disait on se posait même pas la question, il y avait pas de débat.
Il y a un truc qui est vrai. On est au milieu un peu plus de la deuxième journée de Ligue 1. Lyon a déjà perdu des points puisqu'ils ont perdu hier face à Reims et Monaco vient de perdre des points aussi face à Lille. Et le PSG, bon, il est déjà devant avec 6 points pour le moment. Mais c'est vrai que il y a déjà des clubs qui sont des outsiders ou des favoris derrière le Paris Saint-Germain et qui commencent à perdre des points, ça aussi.
C'est toujours mieux de bien commencer hein, au niveau des résultats.
Ça dépend qui t'affronte, hein, forcément.
Après, c'est long, il y a que deux journées. Paris, de toute façon, enfin, moi, c'est mon avis. Ils sont au-dessus, il y a pas de souci. Après, il faut voir justement, peut-être sur un début de saison, voir ce que va faire Marseille demain à Nîmes. Eux aussi, ils peuvent d'entrée prendre 6 points et puis et mettre ces deux équipes-là à 2 points. Donc, en parlant de Monaco, mais c'est toujours intéressant quand même de prendre 4 points. Là, je parle de Monaco qui a été gagné à l'extérieur. Bon, Lille, c'est sûr qu'ils auraient pu gagner, mais Lille, je pense que s'ils perdent pas de joueurs, parce qu'on sait qu'ils doivent vendre. Je pense qu'ils vont en embêter plus d'un. Ils ont un potentiel offensif vraiment intéressant.
Ouais. Tiens, je vous donne le calendrier de Monaco à venir. Jérôme Thomas vous a préparé ça. Prochain match, ce sera Bordeaux. Ils vont recevoir Marseille. Ils vont aller à Toulouse. Et après, ils ont deux matchs à domicile qui sont. Alors sur le papier, c'est toujours pareil, hein, mais plus accessible. Ils vont recevoir Nîmes et Angers ensuite. Mathieu, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, les amis. La saison va être longue, mais intéressante pour Monaco.
Il y aura 38 journées hein, cette année encore.
Voilà.
Merci Mathieu. Bonne soirée mon gars.
Merci les amis.
À très vite. Ciao. On va accueillir Pierre qui lui est supporter du LOSC et qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Et nous aussi la saison elle va être longue et intéressante je pense. Mais dans le bon sens cette fois.
Alors c'est la question que j'allais te poser. Il a été long ce match ce soir, oui. Est-ce qu'il a été intéressant pour toi aussi?
Il a été intéressant si on prend un élément de comparaison la saison dernière qui a marqué un peu tout le monde. Aujourd'hui, on a eu une équipe de Lille qui a été solide, peut-être pas efficace, mais solide, et c'est ce qui nous a porté préjudice la saison dernière. José Fonte qui fait un bon match, un premier bon match avec nous.
Il a failli marquer d'ailleurs.
Il a failli marquer d'ailleurs sur un très bon corner. Et il y a vraiment un fond de jeu, donc on voit que Galtier cette saison a préparé son équipe, a installé un petit peu sa patte. Et dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière, je pense que ça peut être de bonne augure pour la suite. Après, on a encore des joueurs qui doivent arriver, peut-être des joueurs qui vont être vendus. C'est un petit peu encore compliqué de ce côté-là, mais j'espère.
Ah bah c'est quasiment acté d'ailleurs, Pierre. Ils ont des engagements vis-à-vis de la DNCG. Ils vont devoir vendre encore les livres.
Alors on doit vendre pour 80 millions, mais ouais. Il y a quelque chose qui a pas été pris en compte, c'est qu'une banque américaine a quand même racheté 50 millions de la dette cette semaine.
Ouais.
Donc la donne a un petit peu changé. Nicolas Pepe était annoncé pas mal de temps du côté de Séville, ça a été démenti jeudi en conférence de presse par Christophe Galtier. Il y a Jérémy Piet théoriquement qui doit signer au LOSC là dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Et on doit aussi trouver un milieu défensif. On avait pensé au milieu du Sporting Portugal. J'ai oublié son nom, ça m'échappe un petit peu. Mais il y a encore des arrivées.
Ah, Paglia, mais il est parti à Braga. C'est fini.
C'est fini.
Ouais, ouais. Okay. Il a été prêté à Braga.
Il parlait de Mboula aussi. Il parlait de Mboula.
Donc effectivement, il y a Mboula. Donc il y a encore une équipe en construction avec encore des arrivées, des départs. Mais dans tous les cas, je pense qu'on aura quand même une bonne équipe avec un bon fond de jeu. J'espère sincèrement qu'on va garder Nicolas Pepe parce qu'encore avec ce qu'il a fait aujourd'hui et surtout avec ce qu'il a fait la semaine dernière, ça nous permettrait de garder cette bon élément et peut-être même de le vendre plus cher l'année prochaine, pourquoi pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu aujourd'hui et de ce qui s'annonce pour les semaines qui arrivent, je suis assez confiant. Et c'est bien pour le LOSC. Et j'espère qu'on aura encore des matchs comme ça pour les prochaines semaines.
C'est vrai que la situation du LOSC, elle est presque paradoxale, parce qu'on a tous tendance à dire que cette équipe s'est renforcée, et pourtant ils ont surtout dû faire un recrutement système D, c'est-à-dire des joueurs libres essentiellement. Ils ont été obligés de vendre, et pourtant on a l'impression que cette équipe est plus forte que celle de la saison dernière.
C'est un recrutement système D, mais c'est comme Loïc Rémy qui avait comme une expérience en équipe de France, qui a une expérience en première ligue avec Chelsea notamment.
Non, mais ça veut pas dire que c'est pas bon, ça veut dire que c'est économiquement, c'est même très intelligent finalement.
C'est la patte plus Campos, et
c'est
ce qu'il avait fait à Monaco, et on retrouve un petit peu ce qu'il a fait avec Monaco, c'est-à-dire pas mal de joueurs portugais quand même, mais c'est des bons joueurs, et aussi des joueurs qui ont de l'expérience, et des jeunes joueurs qu'on connaissait pas trop, comme le Turc, l'ailier droit qui a encore été très bon aujourd'hui.
Quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de Portugais qui sont arrivés cet été, Tafont et Raphaël Léon, mais c'est tout, le reste c'est que c'est pas des Portugais.
Mais ceux qui sont arrivés l'année dernière aussi, qui sont du Brésil, Thiago Maia, Luis Arroyo, qui parlent portugais, donc il y a quand même une belle communauté qui parle portugais, et c'est mieux pour le collectif, je pense.
Mais en termes de qualité, on n'a jamais dit que Lille avait des mauvais joueurs l'an dernier. Justement, la chance, c'est que Galtier, il est arrivé en milieu de saison, donc là, il fallait ne pas subir. En gros, c'était éviter la descente. Et là, il a pu faire la préparation avec une autre méthode, mais toujours avec de la qualité dans l'effectif. Moi, quand on regarde les joueurs un par un, Il y a techniquement c'est hyper intéressant, athlétiquement c'est fort. Donc là ils ont fait une bonne préparation, et puis comme je l'ai dit, certainement que ce match-là l'an dernier ils l'auraient perdu.
Non, mais
là ils étaient beaucoup plus solides.
Ouais, c'est vrai qu'ils semblent solides, mais après il faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Hein. Ben, c'est vrai qu'on parle de recrutement intelligent, on verra déjà au mois d'octobre, voilà la trêve, dire vraiment si c'est vraiment un recrutement intelligent. C'est vrai que
Non mais pour l'instant c'est cohérent, Sam.
Oui, non mais
c'est cohérent économiquement, sportivement ça tient la route. On voit que dans le jeu c'est pas inintéressant non plus.
Oui, non mais l'année dernière vous avez fait un bon début de saison aussi, avant que ça flanche aussi. Donc
un seul match.
Oui, non mais bon.
Entraînant, c'est tout.
D'accord, mais bon là c'est le deuxième match, il faut quand même attendre. Moi je pense que cette équipe, effectivement, il y a de très très bonnes choses. Moi j'aime bien Loïc Rémy, il faut pas croire, il est pas cramé. Je trouve que l'année dernière à Malaga, il a fait une très très bonne saison. Il a fait franchement, il a beaucoup apporté à cette équipe en Espagne. Maintenant, il faudra faire attention de pas faire des petites fautes là, comme a fait Celik là, des petites fautes qui peuvent coûter, qui auraient pu coûter les 3 points à cette équipe lilloise. Il faudra éviter ça, sinon je pense que Lille peut vraiment faire une très très bonne saison, en tout cas mieux que la saison dernière.
Il était à Las Palmas et Retafe l'année dernière.
Las Palmas. Ouais,
mais ça s'est mal fini d'ailleurs pour lui là-bas.
Oui, parce que bon, après l'entraîneur lui a posé des problèmes, mais dans le jeu, il était très bon.
Merci Pierre, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Merci.
À très vite,
à
Pierre.
Ciao, ciao.
Je vous file le calendrier de Lille également. Prochain match, ce sera à domicile face à Guingamp. Deux déplacements à Angers et Amiens. Et ensuite, ils recevront Nantes, les Lillois. Voilà. Bonne soirée, Pierre. Salut. Bonne soirée à toi.
À la prochaine.
Salut.
Merci.
Ciao. Supporters de Dijon, supporters de Nantes, on vous attend au 32-16. Dijon qui a confirmé 2 victoires après 2 journées et Nantes 2 défaites après 2 journées. Dijon qui s'est imposé 2-0 face aux Canaries ce soir avec un doublé de Julio Tavares. Plus que jamais, meilleur buteur de l'histoire du DFCO en Ligue 1, notamment. Il est assez étonnant, hein, ce joueur quand même, hein, Julio Tavares.
Bah, il a progressé, c'est un truc de fou.
Ah, mais il a des stats,
Sébastien disait tout à l'heure que c'est vrai que c'est un joueur qui a énormément progressé. D'ailleurs, on l'attendait pas vraiment à ce niveau-là. Hein,
En fait, il y a des joueurs comme ça, ils arrivent à passer des paliers, peu importe la division. Et là, après, forcément, quand tu es attaquant et que tu marques, bah, au niveau de la confiance, je voyais qu'il était capitaine ce soir, c'est vraiment devenu un taulier. Ah. Le gars, il s'arrache, il marque des buts, mais aussi il montre l'exemple, il défend, il fait des appels. Franchement, c'est un joueur complet, un très très bon attaquant de Ligue 1.
Et ben, on en parle dans quelques instants avec Sébastien Piocelle, avec Samy Pou, avec vous également au 32-16. Et on attend vos réactions sur le hashtag RMC Live. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de En compagnie de Samuel Hipois. C'est chiant à dire. C'est pour ça que je t'appelle Sam.
Quelle
idée de s'appeler Samuel Hipois. Sam Hipois, c'est mieux.
Tu m'as toujours appelé Sam, en plus.
C'est vrai. Capitaine de soirée. Sam Hipois et Sébastien Piocelle. Voilà.
Seb, dis-moi, c'est quoi tu vois.
Bah, Seb Piocelle. Non, Seb et Sam. Voilà. Seb et Sam. Et puis vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Je vous rappelle les résultats d'aujourd'hui, de la deuxième journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain cet après-midi a battu Guingamp 3-1, 0-0 entre Monaco et Lille. On vient de l'évoquer il y a quelques instants. Victoire de Rennes face à Angers. Il est comme un ouf, Jérôme Thomas. 1-0. 2-0 pour Dijon face à Nantes. On vous attend au 32-16 pour revenir là-dessus, Dijonais et Nantais. Un partout entre Caen et Nice. Et victoire de Montpellier à Amiens. 2-1. Succès donc de Dijon ce soir, 2-0 face à Nantes, doublé de Julio Tavares qui a marqué à la 8e et à la 52e minute de jeu. Dijon qui s'était imposé 2-1 lors de la première journée à Montpellier. Nantes avait perdu face à Nantes lors de la première journée et Nantes rechute ce soir. Ça te fait quoi de voir ton ex en souffrance, Seb?
Non, mais c'est, bon, on s'en disait, c'est le début de saison. Il y a que 2 matchs. Troisième entraîneur en 3 saisons. Donc là aussi, à chaque fois, il y a une réadaptation aussi à avoir. Donc j'ai pas envie de ni tirer sur les joueurs, ni sur le club, ni sur l'entraîneur, surtout que dans ce qu'ils cherchent à faire, ça a l'air d'être plutôt intéressant.
Après, ça te plaît le jeu? Parce que c'est vrai que c'est un peu ça ce qu'on attendait de Miguel Cardozo.
Avec Ranieri, ça me plaisait moins, mais bon, en tout cas, pour ce qui est d'une grosse moitié de saison, ils étaient dans les 5 premiers. Donc je pense que quand on est supporter, on a envie de voir son équipe en haut. Maintenant, quand on passe d'une façon de jouer à une autre comme ça en quelques semaines, il faut se réadapter. Il faut aussi surtout voir si on a les joueurs pour le faire. Moi, j'adore la possession. Je trouve ça génial. Après, à un moment donné, il faut aussi du changement de rythme. Il faut verticaliser. Et c'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Ils ont fait un bon match, hein, dans l'ensemble contre Monaco. Là, ce soir, ils avaient aussi la possession. À l'arrivée, ça fait 2 défaites, mais il faut laisser un peu de temps à Cardozo. Il faut que les joueurs s'habituent aussi à sa manière de fonctionner. Et puis on fera le point.
Ouais, mais Seb, le problème c'est qu'on pourra toujours lui laisser le temps qu'il faut. Mais si, comme tu dis, j'ai comme l'impression que la possession, ils la font bien. Mais après, arriver dans la zone des 20 derniers mètres où il faut justement ajuster, faire la bonne passe, c'est là où ça pêche un peu. Et tu vois, quelque part, on dirait qu'il n'y a pas vraiment.
Mais il attend des renforts offensifs encore, notamment Miguel Cardozo.
Ouais, mais là, la problématique, c'est quand on change d'entraîneur. Et en plus, on change de façon de jouer.
De philosophie, presque.
Ouais, carrément de philosophie. Et que les joueurs vont arriver en plus au compte-goutte quasiment fin août. Et si ils ont perdu 3 ou 4 matchs déjà à la fin août.
Oui, mais Seb, tu vas pas me dire que la possession c'est pas un système qui dérange les joueurs. Je pense qu'ils s'adaptent très vite dans la possession parce que c'est comme tu dis. Tu dis que tu aimes bien la possession. Pourquoi? Parce que le joueur de foot, il préfère avoir le ballon dans les pieds que courir après.
Ah, oui, mais il y en a qui peuvent pas le faire, Sam. Il y a des joueurs qui préfèrent jouer en contre. Il y en a qui sont pas très à l'aise avec le ballon.
Il faut bien qu'il analyse son groupe.
Et puis en plus, quand t'as été habitué, je sais pas, depuis 3-4 ans à jouer en contre ou alors finalement à pas trop être avec, tu vois, faut que ça entre aussi.
Moi j'ai le sentiment que tu passes du jeu en phase rapide qu'en possession. J'ai toujours la possession, je pense que tu la joueur l'acquiert très rapidement ça.
Je vais vous poser la question à tous les deux, qui avaient été joueurs pro. Moi, pour avoir pas mal lu Miguel Cardozo, qui aime bien d'ailleurs intellectualiser, formaliser, verbaliser ses idées également. Lui, il explique quand il a entraîné le Rio Ave la saison dernière, qui est un club de seconde zone au Portugal, qui était deuxième en termes de possession de balle, et lui il a dit ça a fonctionné parce que mes joueurs ont adhéré. Mais au départ, mes joueurs, il a fallu que je leur fasse prendre conscience qu'ils étaient capables de le faire.
Non, mais après, peu importe la philosophie, tu vois, le premier truc pour un entraîneur, c'est que tes joueurs ils adhèrent à ce que tu dis. Voilà, sinon,
bien sûr.
Quoi qu'il arrive, après, il y en a.
Nous y voilà.
On parlait de Conceição. Là, il a priori, ce qui est ressorti, c'est que, en gros, c'était une équipe entre guillemets de chiens qui faisait mal un petit peu, qui était agressive dans le bon sens du terme, mm-hmm. où ça allait presser de suite à la perte du ballon. Voilà, et c'est ce qu'il leur fallait à ce moment-là, et ça a marché. Là, moi aussi, j'aime la possession. Maintenant, comme j'ai dit, il faut être pragmatique et le but, c'est quand même de gagner les matchs. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien la possession. Il faut pas qu'elle devienne stérile, déjà, quoi qu'il arrive. Et puis, à un moment donné, il faut être décisif. Il faut frapper. Il faut faire des décalages. Il faut trouver des solutions. Et pour l'instant, on a pas vu. Sinon, t'avais fait, je sais pas moi, 3 barres, un poteau. Bon, ouais. Ça n'a pas été le cas.
Ouais, on va accueillir Benjamin, qui est supporter de Lens et qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bon Benjamin, 0 point après 2 journées, t'es pas content?
Je suis pas content. Juste pour démarrer, petite dédicace à monsieur Piocel, qui, on n'oublie pas son passage au SN, et voilà, c'était un bon gars, et voilà, je souhaitais déjà le remercier pour ce qu'il a fait au SN.
Tu dis ça parce que tu le connais pas vraiment, mais...
Non, c'est vrai. Pas perso, mais sincèrement, j'ai que 28 ans, en tout cas, voilà, je trouvais que c'était
un joueur intelligent. Est-ce qu'il serait titulaire dans cette équipe actuelle?
Ah oui, la place d'Abdoulaye Touré, tout de suite, mais tout de suite.
Attends, c'est super affûté encore, Seb.
Ah ouais,
il est comme ça, mon gars. Branchez-vous sur RMC Sport News, il est comme un...
Monsieur Pecel, il avait une justesse technique que aujourd'hui beaucoup de joueurs n'ont pas. Or, on veut faire un jeu de possession. Alors, c'est bien beau de faire les Mario, d'avoir 70% de possession, mais on n'en fait rien. C'est comme il a dit Sébastien, c'est une possession complètement stérile. Il n'y a eu aucun tir ce soir, mais aucun tir. Il n'y a eu rien. Il n'y a rien eu, rien eu, rien eu. C'est la seule chose qu'on a eu ce soir. Je remercie mon frère pour ça, c'est des bonnes brochettes de viande, parce que sinon, c'était une misère ce soir, une misère.
Il n'y a pas de vegan chez toi, Benjamin, visiblement, mais.
C'est bien beau de faire les Mario à avoir la possession de balles, mais il n'y a eu aucun tir, il n'y a rien eu. On parle quand même de Dijon. Alors, je les respecte, tout le respect que je dois. Il y a Tavares, il y a City, c'est des bons joueurs, je les respecte. Mais honnêtement, si on n'est pas capable de prendre des points contre Dijon. Et le problème, c'est que, il a soulevé une chose, qui était très juste, c'est qu'à la fin de la saison, on va encore se mordre les doigts en disant, tiens, si on avait 5 ou 6 points de plus, on aurait pu ça. Ouais, mais sauf que les points, les 5 ou 6 points de plus, c'est maintenant que ça joue. C'est maintenant que ça joue. Et nous, on est incapable de le faire, ça. Parce que le recrutement est tardif. Parce que, voilà. Mais c'est, alors je suis d'accord sur certains points, comme quoi, il y a une nouvelle philosophie de jeu, effectivement, même avec Michel Derzakarian, c'était aussi, très défensif et contre-attaque, avec Ranieri, pareil. Donc, je suis d'accord là-dessus qu'il faut s'adapter aussi à une autre philosophie de jeu. Mais à un moment donné, nous, les saisons de transition,
Benjamin. Benjamin, je te coupe priorité au direct. Reste avec nous, Benjamin. Dans quelques instants, on a Valentin Rosier, le défenseur du DFCO de Dijon, qui est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir, Valentin. Bravo pour cette victoire ce soir, Valentin.
Bonsoir, merci. Ouais, ça fait très plaisir pour nous, pour le groupe. Pour nous, on a plein de gros matchs.
Alors, vous restiez sur une victoire 2-1 face à Montpellier. Là, vous récidivez 2-0 à domicile maintenant face à Nantes. Début de saison parfait. Sincèrement, Valentin, tu t'attendais à un début de saison comme ça de la part de Dijon?
Non, pas du tout. Surtout que notre premier match était à l'extérieur contre une bonne équipe. Et vu notre bilan de la dernière à l'extérieur, voilà, ça va être compliqué. Mais voilà, on a réussi à faire 2 victoires. On a travaillé pour que ce soit la plaine et pendant le match. Donc voilà, je pense que c'est mérité, qu'on est récompensé par nos efforts.
Alors, on était en train d'analyser il y a quelques instants le jeu du FC Nantes. Alors, Miguel Cardozo, l'entraîneur des Canaries, aime beaucoup avoir le ballon, il aime bien la possession. On a vu les statistiques défiler, près de 70% de possession de balle pour Nantes chez vous, à Dijon. Dijon est une équipe qui joue, avec Dalloglio également. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que vous aviez préparé ce cas de figure, justement, de devoir jouer sans le ballon?
Ouais, on était préparés. Le coach nous en avait parlé, on les a vus en vidéo. Et puis voilà, même si on aime jouer, je pense que sur certains matchs, il faut savoir s'adapter à l'adversaire. Et voilà, Nantes, ils voulaient beaucoup jouer, sauf qu'ils étaient très hauts. Et donc nous, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'espace à la profondeur, de les contrer. Et voilà, je pense que ça a été une machine.
Valentin Rosier, défenseur de Dijon, est en direct avec nous dans l'after. Samuel Ipois est une question pour toi, Valentin.
Déjà bravo pour vos deux résultats, ils sont vraiment positifs. Est-ce que justement quand Johan Gourcuff va rentrer, est-ce qu'on va voir Dijon encore meilleur?
C'est possible. Ça reste un très bon joueur. Hein. Il a fait une bonne carrière. Voilà, tout le monde sait qu'il est au-dessus. Je pense que ça peut faire que du bien à l'équipe.
Mais qu'est-ce qu'il a à l'entraînement, comment il est, comment tu le vois toi actuellement, comment tu le sens, il est prêt à rentrer dans l'équipe, il est
il est pour moi il est en forme, hein. Je le trouve très bien, même que ce soit offensivement et défensivement. Moi perso je suis encore bien avec lui, même ils donnent des conseils, ils disent certains placements, moi je le sens prêt, après ce sera le choix du coach.
Valentin, juste une dernière question avant de te libérer. Il y a pas mal de bruit derrière toi, mais ton nom circule du côté de Lille notamment. Alors c'est vrai que tu sors d'une grosse saison avec Dijon où t'as pas mal joué. Qu'en est-il? Est-ce que t'as envie de rester à Dijon? Est-ce qu'il y a une possibilité de départ? Est-ce que ça t'intéresserait d'aller au LOSC par exemple?
Moi pour l'instant je suis à Dijon et voilà, j'ai pas envie de penser si je vais aller là, si je vais pas y aller. Pour le moment, Dijon. Si je dois partir, je partirai, mais pour le moment voilà, je suis à Dijon et je suis très bien ici.
Ah bah c'est une belle langue de bois, bravo Valentin.
Avec plaisir.
Bonne soirée encore, bravo Valentin, à très bientôt.
Merci,
bonne soirée. Victoire donc de Dijon 2-0 face au FC Nantes. On était en train de disséquer le jeu des Nantais. On va revenir dans quelques instants. On va d'abord écouter Leonardo Jardim en direct en conférence de presse. Monaco qui a fait match nul face à Lille, tiens, peut-être le futur club de Valentin Rosier.
L'impression que nous attendent de toute cette jeunesse, de toute cette joueur. Pour nos futurs, c'était plus compétitif, mais avec les exigences de Monaco, que c'est jouer toujours pour gagner. Nous n'est pas une équipe moyenne que pour lancer les jeunes et dire non, nous rester à moitié de la table, c'est bon. Non, nous avons l'ambition, nous avons les objectifs.
Tu peux traduire?
Allez, Leonardo Jardim en direct en conférence de presse à Monaco. Monaco qui a fait match nul 0-0 face à Lille. On continue d'écouter Jardim. Allez, dernière réponse de Leonardo.
Comme déjà parlé ça. Nous jouons avec l'ambition. Ça, indépendamment, si nous jouons avec une équipe plus jeune, on joue moins d'expérience, on essaye de bricoler un peu. Nous, l'ambition, c'est toujours la même. C'est jouer pour les 3 points. Pour ça, tous les matchs que Monaco n'est pas arrivé à faire les 3 points, bien sûr qu'on va rester dessous.
Voilà, c'était la réaction directe de Leonardo Jardim et donc 0-0 entre Monaco et Lille. On aura la réaction également dans quelques instants en direct en conférence de presse de Christophe Galdier. On termine avec Benjamin, supporter nantais qui était avec nous au 32-16. Pardon Benjamin, mais Valentin Rosier était au bout du fil avec nous. Alors, t'étais en train d'analyser ce jeu nantais, cette possession de balle finalement stérile. Valentin Rosier le disait à l'instant, il s'était préparé à ça, hein, les Dijonais.
Ouais, il s'était préparé à ça. Maintenant, moi, je reviens à une chose qu'avait dit Sébastien Piocelle, c'est encore faut-il avoir les joueurs. Et aujourd'hui, bon, il y a une mayonnaise à prendre avec toutes les arrivées. Il y a aussi, avec beaucoup de supporters, on partage le même avis. Il y a des postes en question, notamment Rongier en numéro 10. Nous, on s'interroge parce que pour nous, c'est un numéro 6 avec toute proportion gardée, un peu dans le style Verratti. Mais c'est vraiment pour nous un récupérateur et un joueur box-to-box qui est capable justement de couper des lignes de passe et puis de faire des bonnes passes vers l'avant. Mais c'est certainement pas un 9,5 ou un 10. Il joue toujours en 10. Avec Ranieri, il joue en 10 derrière Salah. Ça marche pas. On voit que ça marche pas, mais pourtant, il continue à jouer en 10. Donc, faudra qu'on nous explique ça, à un moment donné aussi.
Ton avis, toi, sur le cas Rongier, tu disais, je suis d'accord.
Ah ouais, je te rejoins à 200%. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir le jeu en face. Il a une très bonne, il a une très très bonne première passe. Il est plus en difficulté quand il est dos au jeu. Il sait pas, voilà, c'est à mon avis, il a pas été formé là.
Donc, vous pensez pas qu'il peut être pollué
sous relayeur?
Vous pensez pas qu'il peut être pollué aussi par ce qui se passe en dehors? C'est-à-dire, il est annoncé un peu à droite à gauche. Voilà, il est un peu proposé à pas mal de clubs. Ça a été le cas à Porto ces derniers jours aussi. Il a annoncé du côté de Marseille. Kita vient de se friter avec avec Hérault, le président de Nantes, avec le président de Marseille, parce qu'il n'a pas apprécié que finalement il dragouille son joueur. Ça joue ça aussi dans la tête d'un joueur.
Non, je suis pas d'accord avec toi, moi, Nico, si je puis me permettre.
Vas-y, vas-y.
Dans le sens où je regarde tous les matchs de Nantes et honnêtement avec Ranieri, il a fait tous les matchs en 10, en 9,5. Il fait tous les matchs encore, même la préparation en 9,5, en 10. Donc il a fait plusieurs saisons toujours dans ce poste-là, alors que son meilleur poste, enfin nous on est tous sûr à Nantes que c'est son numéro 6. Enfin, voilà, il a le volume de jeu, mais c'est un pur 6. C'est quelqu'un justement dans la première phase, dans la relance, qui est très très bon. Techniquement, il est propre aussi. Il a une justesse technique justement. Voilà, de première relance, on en parlait. Voilà, ça c'est, il est très juste là-dessus. Mais,
non, mais Benjamin, ouais. Ce que disait Nico, c'était surtout sur l'actualité. Donc il est demandé ou proposé. Ça m'étonnerait pas qu'il soit demandé, parce que c'est quand même c'est un très bon joueur à son poste, c'est encore un jeune joueur. Et peut-être qu'aujourd'hui, il a peut-être des envies d'ailleurs aussi. Il doit en avoir marre, hein. On parlait de continuité. À Nantes, il y a beaucoup de changements tous les ans. À chaque fois, il faut se réadapter. Il y a Dubois qui est parti. Donc, je pense qu'il a peut-être des envies d'ailleurs.
Priorité au direct. Vous êtes dans l'after. La suite de la deuxième journée de Ligue 1. On remercie Benjamin, supporter de Nantes, qui nous a appelé au 32-16. On est en direct dans l'after avec Florent Mollet, joueur de Montpellier. Montpellier qui s'est imposé 2-1 ce soir face à Amiens, avec notamment un but de Mollet. Bonsoir, Florent.
Bonsoir.
Et bravo. Alors bravo pour cette victoire, bravo pour ce but, joli but d'ailleurs.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de marquer pour cette première sur mes nouvelles couleurs.
Alors quand tu marques, c'est rarement dégueulasse, hein, Florent. Sache-le quand même. Hein.
Ouais. Après j'essaye de marquer des beaux buts. Après si je peux en marquer 10 free crack, je les prends aussi.
Alors tu fais partie des recrues, hein, estivales de Montpellier. Il y a eu pas mal de renforts offensifs, hein. Vous avez 4 joueurs à être arrivés. Il y a eu Laborde notamment qui est arrivé ces derniers jours. On voit le buzz et le boxon que ça a mis d'ailleurs du côté de Bordeaux. C'est vrai que Montpellier avait la 4e pire attaque du championnat la saison dernière. Il va y avoir pas mal de concurrence cette saison. Ça te fait pas plus peur que ça?
Non, la concurrence ça fait partie du métier. J'ai toujours depuis que j'ai commencé mes premiers pas en pro, j'ai toujours eu cette concurrence. Je sais à quoi m'en tenir. Je sais que je serai jamais un joueur qui sera titulaire indiscutable. C'est à moi de prouver tous les jours et c'est à moi de prouver sur le terrain que je peux jouer et que je peux devenir un élément déterminant pour l'équipe. Donc non, ça ne fait pas peur et ça me permet de me surpasser et de progresser tous les jours et de pas m'endormir sur mes lauriers.
Florent Mollet est en direct avec nous dans l'after et Sébastien Piocelle a une question pour toi, Florent.
Alors salut Florent, en fait non, j'ai pas une question, moi je voulais juste dire que je te trouvais
déclaration d'abord.
Dans le football actuel, il y a beaucoup de joueurs on base souvent le jeu sur le physique et lui il est vraiment un joueur en fait qui entre guillemets qui pue le football, qui on sent que c'est un joueur de passe qui aime régaler ses partenaires, qui est toujours dans le mouvement, dans les petits espaces, qui voit le jeu avant. Techniquement, c'est pas peut-être la technique des roulettes ou des petits ponts, mais c'est toujours très très propre. Et donc, je voulais juste te le dire, parce qu'à chaque fois que je te vois jouer, je me régale. Voilà.
C'est gentil, merci beaucoup.
Et c'est vrai, Florent, parce qu'on regardait le match ensemble, il arrêtait pas de dire des éloges sur toi, parce qu'en plus, je trouve aussi que t'es un joueur très actif. Je crois que...
Non, toi tu l'insultais pendant le match, hein. si, j'étais là.
Non, c'est pas vrai. Non, je pense que tu dis que tu... Moi, je pense sincèrement que tu vas souvent être titulaire. Moi, je trouve que dans ton activité, il y a très peu de joueurs qui ont ton potentiel du côté de Montpellier. En tout cas, bravo pour ce que tu fais et continue comme ça.
Tu es servi avec Skiri, Paul Lannes, c'est aussi des joueurs de ballon. Je pense que là, tu vas t'y retrouver. Et puis avec Delors qui est un joueur aussi d'appel et de profondeur, je pense que vous pouvez vous régaler cette saison.
Mais par contre, ce qui me dérange un peu au côté Montpellier entre Delors et Laborde, j'ai l'impression que ces deux joueurs, c'est un peu qui se ressemblent un peu. Est-ce que vous allez pouvoir les trouver? Parce que ces deux joueurs, j'ai comme l'impression que ces deux joueurs, c'est la faute.
Un peu le même profil.
Et c'est le même profil.
Allez, Florent, vas-y, réponds, ouais. Florent.
Non, après, je pense que oui, c'est deux joueurs aux caractéristiques similaires, mais après, on a Andy qui peut prendre plus la profondeur que Gaëtan. Après, ce qui est bien avec Gaëtan, c'est que son jeu de OG, il est très intéressant. Ça me permet notamment à moi de me retrouver face au jeu, et puis non, je pense que nous trois, on est complémentaires. Bon, je peux aussi appeler dans la profondeur, c'est pas un souci. Après, on peut permuter. Donc non, je pense que là, on est complémentaires. Il faut encore peaufiner les choses en entraînement parce que c'est pas encore parfait, mais c'est de bon augure pour la suite.
Voilà, Florent Mollet est en direct avec nous dans l'after. Florent, l'année dernière, Montpellier était surtout une équipe défensive, hein, c'était très solide. Elle marquait peu, on l'a dit également. Ça t'a pas fait un peu peur quand t'es arrivé à Montpellier, justement? Derzakarian est un entraîneur qui a une réputation d'être très défensif, même si sans défense, c'est vrai. T'as pas cogité un peu au moment de choisir?
Non, parce que c'est un challenge dans le sens où on m'a pris pour essayer de réanimer cette le côté offensif de l'équipe. Donc on m'a pris pour marquer des buts, pour être décisif et pour stabiliser le jeu. Donc entre guillemets, c'est un challenge. Si j'y arrive, je montrerai aux gens que j'ai fait le bon choix, et je pense que j'ai fait le bon choix parce que, comme j'ai toujours dit, c'est le seul coach de Ligue 1 que j'ai eu au téléphone, et c'est le seul coach qui m'a parlé avec le président, qui m'a convaincu de venir ici. Et puis vous savez, après moi je suis descendu malheureusement avec mon équipe quand j'étais à Metz, voilà, j'avais pas non plus 40 000 propositions
Franchement, je vais te le dire, c'est pas parce que t'es avec nous, mais c'est curieux, parce que t'as été l'un des meilleurs joueurs messins la saison dernière.
Oui, après, vous savez, c'est comme ça, c'est le foot, mais Montpellier a quand même fait un top 10. Après, c'est vrai qu'on les caractérise d'équipe défensive, mais moi, ce que je vois à l'entraînement et ce que je vois dans les matchs, c'est que c'est quand même une équipe qui essaie de relancer de derrière. Alors, c'est vrai que la défense à 5 permet de se stabiliser défensivement, mais il faut pas voir que ça. On a quand même des joueurs de qualité, des joueurs de ballon, et on essaie, contrairement à ce qu'il peut se dire, de relancer derrière. C'est ce que le coach il demande, de jouer au foot, de avant tout de bien défendre, c'est sûr, mais de jouer au foot. Donc on va essayer de cette saison avec l'apport des recrues, on va essayer de changer un peu cette facette que les gens ont de Montpellier.
Merci Florent Mollet d'avoir été en direct avec nous dans l'after.
Merci à vous en tout cas.
Merci, encore bravo pour ton but et pour cette victoire. Bonne soirée Florent. Prochain match de Montpellier, ce sera à la Mosson face à l'AS Saint-Etienne la semaine prochaine. On va revenir et terminer sur l'autre match qu'on était en train d'analyser entre Dijon et Nantes. Dijon qui s'est imposé 2-0 face à Nantes. On a Romaric, fidèle de l'after, grand supporter du DFCO, des chouettes dijonnaises, qui est en direct avec nous. Bonsoir Romaric.
Salut Nico, salut Seb, salut Sam.
Bonsoir Nico.
Très très content ce soir de la victoire dijonnaise. Une victoire un petit peu atypique par rapport à ce qu'on fait habituellement, puisque d'habitude on essaie de faire du foot et de jouer au foot. Bah là on a un petit peu pris au piège les Nantais à leur propre jeu, on les a laissés jouer, puis on les a contrés assez facilement avec Tavares qui devant est incroyable de réussite et de talent, quoi.
C'est vrai qu'il est étonnant, on en parlait tout à l'heure, hein, de Julio Tavares, mais il c'est hallucinant, quoi.
Et il est incroyable, sachant que ce mec est un joueur qui à l'origine enfin, il y a 5-6 ans, était inconnu au bataillon, avait une carrière qui n'avait rien de celle d'un footballeur, et qui finit en Ligue 1 en étant, au début de saison, bien évidemment, mais meilleur buteur du championnat avec 3 buts. C'est génial pour nous, quoi.
Ouais, ça fait 2 journées, mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est un beau début déjà pour
oui,
pour
voilà, oui. Oui, faut garder toute proportion gardée, bien évidemment, on est en début de saison. Dijon a un calendrier plutôt sympa cette année, donc on va essayer de surfer là-dessus pour prendre un maximum de points, pour assurer le maintien le plus vite possible si possible, et puis pourquoi pas être une surprise cette année, quoi.
Tiens, on était avec Romain Mollet là il y a quelques secondes. Il est formé chez vous, hein, à Dijon,
ouais.
Romain Mollet.
Tain, c'est ouais, cool, ouais, Mollet, il a joué chez nous il y a
Florent, j'ai dit Romain,
4-5 ans. Florent, je crois qu'il a joué chez nous il y a 4-5 ans.
Ouais. Il est passé par Créteil entre temps.
Ouais, on a toujours eu des bons petits joueurs comme ça, milieu offensif. Mollet, il a une super frappe, hein. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui.
Ouais, il met un but de fou, ouais, bien sûr.
Voilà, quel but il marque, et c'est un super joueur.
À l'époque, il y avait le petit Paille aussi. Je sais pas si tu te rappelles.
Paille.
Pas Stéphane.
Je me rappelle, Stéphane Paille, ouais, dans les années 90.
Non, mais un petit Black, là, qui jouait aussi, parce que moi, je jouais à Nîmes quand Dijon était en Ligue 2, et
c'est
à ce moment-là, j'avais remarqué le petit Mollet.
Effectivement, ouais, peut-être bien, ouais.
C'est vrai qu'il y a toujours eu cette intention de jouer quand même à Dijon.
Oui, bien sûr. Ouais, Dijon, avec Dello Guillot, là, ça fait quelques années qu'il est au club. Il a toujours développé cette action de jouer au football. Et c'est vraiment intéressant pour nous, supporters. À chaque fois, on sait que contre Dijon va jouer. On va pas s'ennuyer, on va avoir du spectacle et on va avoir des buts, quoi. Et chaque année, on a toujours des joueurs qui sortent de l'ordinaire. Les dernières, on avait Kouan Espiti qui était vraiment hors du commun. Pour nous, hein, je parle. Et on espère les garder. Et Julio surtout qui vraiment a marqué une bonne douzaine de buts l'année dernière et qui est bien parti cette année pour faire encore un bon championnat.
le pape dont tu parles, le paille dont tu parles.
Pape paille, ouais.
Pape paille. Le mec, il a fait un truc, là, il a mélangé des mots, là. Il a été formé à Saint-Etienne, et après, il a pas mal bourlingué. Il est passé par la Duchère, notamment. Dijon, il y a joué 3 ans, entre 2012 et 2015. Il est parti à Lorient, et il a terminé à Bourg. Voilà.
Où
enfin, oui, il est d'ailleurs. Joue, oui, il est à Bourg, quoi, d'ailleurs.
Ouais,
il a
pas fini,
il a 28 ans, quoi.
Mais Romaric, moi je voulais juste parler. Moi, ce que j'attends un peu de Dijon, c'est les, moi je veux voir un peu comment va être intégré un peu Gourcuff.
Toi, ça, tu aime Gourcuff.
Hein. Non, moi j'aime bien.
Il
moi,
a raison, c'est, on est curieux quand même de le voir.
Ouais, moi je suis curieux de savoir un peu comment être son adaptation du côté de Dijon. On sait que bon ben voilà, Dalleghio, comme vous le dites, est un joueur qui c'est un entraîneur en tout cas qui aime bien faire bien jouer ses équipes. À ton avis, comment il va pouvoir être intégré Johan Gourcuff du côté de Dijon?
Alors Sam, c'est une bonne question. Tout à l'heure, je t'ai écouté avec Valentin Rosier lui poser la question comment se rendait Gourcuff. Je pense sincèrement, si j'étais à Oglio, et je pense que c'est comme ça qu'il va essayer de le gérer, c'est de le mettre au fur et à mesure de plus en plus. Donc au départ, il va être remplaçant comme il l'est actuellement, mais au fur et à mesure, il va le mettre de plus en plus de minutes de jeu, lui laisser le temps de prendre confiance. Bon, il y a un truc qui m'a marqué aujourd'hui quand il est rentré avec le sourire. Il était content, le public de Dijon l'a applaudi. Et il s'est senti, je sais pas, ça fait un truc bizarre, j'ai l'impression qu'il était content de rentrer sur un terrain de foot. Et moi, ça fait longtemps que Gourcuff, je l'ai pas vu rentrer avec un sourire. Et je pense que c'est comme ça que Dijon va réussir avec lui. C'est en l'intégrant par le côté familial, le côté club, le côté, tu viens là pour jouer au foot, pas pour être médiatique, parce que tu joues à Dijon, donc faut pas rêver. Mais on va t'intégrer tranquillement dans le collectif. Sachant qu'à Dijon, il y a quand même des mecs qui sont, je trouve, techniquement, très bons. Un mec comme Sliti, un mec comme Mehdi Abed, c'est des joueurs qui au milieu de terrain peuvent très rapidement travailler avec Gourcuff. Et je pense que si Gourcuff, on prend le temps de le soigner, de faire en sorte qu'il récupère toute sa confiance sans ces maudites blessures qui ont fait de lui un joueur de cristal, si on arrive à en faire un joueur correct et revenir le Gourcuff entre guillemets qu'il était quand jeune, c'est-à-dire techniquement et insouciant, sans aucune prétention bien sûr, on va réussir notre pari. Dijon avait essayé avec Marvin Martin il y a 2 ans, ça a été négatif. Ouais. Il a rebondi à Reims, c'est tant mieux pour lui, mais on n'avait pas réussi ce premier pari, donc j'espère qu'avec Gourcuff, ça fonctionnera.
Merci Romaric d'avoir été avec nous. Belle soirée
plaisir,
à toi Romaric. À très
merci
bientôt. À messieurs, allez, réaction, la réaction en direct en conférence de presse de Christophe Galtier. Match nul ce soir entre Monaco et Lille à Louis II.
Qui a amené beaucoup de profondeur et de vitesse. Ce qui nous a mis en danger. On a eu ce penalty justement accordé par monsieur Léonard et Mike a fait l'arrêt. Il a été décisif. On a une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile, même si après le penalty, nous avons quand même deux situations très favorables et voilà, on n'y arrive pas parce que sur le tir de Nico, le gardien fait l'arrêt qu'il faut faire et sur ce ballon, ce énième ballon en profondeur, Nico, il manque pas grand-chose. Mais j'ai trouvé quand même que les organismes avaient beaucoup souffert avec une grosse chaleur et que voilà, mais ça reste un bon point parce que c'est un point, mais surtout j'ai trouvé l'équipe dans son expression intéressante.
Voilà, la réaction directe de Christophe Galtier. Match nul ce soir entre Monaco et Lille. Dans quelques instants, on reviendra sur la victoire de Rennes 1-0 face à Angers. Sarr qui a marqué le seul but de ce match, supporter Rennes et supporter Angevin. On vous dit à tout de suite au 32-16 avec Seb Piocel et Samy Poix. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Samy Poix, de Sébastien Piocel, vous êtes également très nombreux sur le hashtag RMC Live. Les résultats de la deuxième journée de Ligue 1, ça s'est poursuivi cet après-midi et ce soir. Le Paris Saint-Germain qui a battu Guingamp 3-1, victoire d'ailleurs en Bretagne. On vous attend d'ailleurs, un supporter de l'en avant de Guingamp et du Paris Saint-Germain au 32-16. Pas de but entre Monaco et Lille. Rennes s'est imposé 1-0 face à Angers, on va y revenir dans quelques secondes. Dijon qui a battu Nantes 2-0, un partout entre Caen et Nice. Et Montpellier est allé s'imposer 2-1 face à Amiens. On était avec Florent Mollet, l'un des buteurs de Montpellier, en direct dans l'after il y a quelques instants. Victoire de Rennes 1-0 face à Angers. Alors Rennes qui avait subi la semaine dernière et qui avait été défait 3-1 face à Lille. Angers qui avait perdu, match spectaculaire, c'était le match dingue de la première journée, défaite 4-3 face à Nîmes. Angers qui enchaîne une deuxième défaite, Rennes qui lance enfin d'ailleurs son championnat. C'était pas le match le plus dingue de la soirée d'ailleurs non plus celui-là. Mais...
Oui, mais après Rennes ils sont un peu dans l'obligation de confirmer. Ils ont fait une superbe saison, ils ont fini cinquième au finish. Et là maintenant on attend Lamouchi un peu au tournant parce qu'il est arrivé en cours de saison, il a fait un super boulot avec son groupe. Ils ont pas beaucoup changé au niveau de l'effectif, ils ont un groupe quand même cohérent. Mais ils vont être plus attendus, c'est toujours ça hein, quand on finit en haut de tableau, après on est plus attendu et du coup on joue contre des équipes peut-être qui vont moins se découvrir, sachant que quand il y a Sarr qui va à 3000 à l'heure, on a plutôt tendance
c'est
à rester.
C'est le buteur ce soir.
Hein. Non, mais en plus quand tu joues une équipe comme Angers, tu sais que ça va être un jeu physique. Angers t'impose de jouer assez physique. Rennes a répondu présent dans ce domaine-là parce que c'est jamais facile. En plus, maintenant Rennes effectivement, on les attend au tournant. On espère que ça sera un peu mieux que l'année dernière. Mais bon, prends toujours ses points. C'est bien, ils prennent des points. Il faut les gagner. Il faut prendre ces points-là pour être plus à l'aise, pour pouvoir travailler mieux la semaine et prendre de la confiance.
Alors c'est vrai que Sabri Lamouchi aimerait des renforts, notamment en attaque. Alors il y avait Rodos, l'Iranien, qui était annoncé. Finalement, il s'est éloigné, il ne devrait pas venir du côté de Rennes. Il manque quelques ajustements. Le dossier du neuf de l'attaquant, c'était déjà un problème la saison dernière. Hein. Il avait testé Kazri, enfin, il a essayé pas mal de choses, il avait pris Sako, mais ils ont du mal à ce poste-là, les Rennais, ces derniers mois quand même. Hein.
Bah, c'est pas un poste facile non plus à trouver, ouais. Parce que ça coûte cher. Donc on a vu l'an dernier qu'ils n'avaient pas hésité à mettre pas mal d'argent dans les transferts, notamment avec Sarr. C'était plutôt un bon pari. Parce que c'est vraiment l'attaquant aujourd'hui qui fait la différence. Après, numéro 9, tout dépend après aussi du profil qu'il recherche. Il y avait, moi, je pense, un bon coup avec l'attaquant de Caen, Santini, là, qui avait vraiment un bon profil, je pense, avec des joueurs de vitesse sur les côtés.
Alors, Jérôme Thomas me souffle dans l'oreille, et il a raison, et on n'en parle pas parce qu'il est blessé, mais il y a Sebatcheu, qui a fait une très grosse saison avec Reims la saison dernière également.
Mais lui, c'est un super joueur de Ligue 2 pour l'instant.
Mais c'est pas un joueur confirmé, tu veux dire.
Mais
pour
par
la Ligue 1,
contre, il a un talent exceptionnel. Ouais, on va voir comment il va s'adapter à la Ligue 1, mais ouais. C'est sûr que si. Il est au même niveau qu'en Ligue 2, ça risque d'être la bonne surprise pour le Stade Rennais.
On retient quoi de la victoire, c'est ça?
Ah, le but de Sarr.
Ouais,
le but. Il marque un beau but, mais sinon il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Hein. On va juste retenir la victoire et je pense.
Ouais, et puis Pajot, c'est qui s'est blessé gravement.
Oui, alors ça c'est vrai. Voilà, on prendra de ces nouvelles dans les prochaines heures, les prochains jours également. Il y en a un qui est d'accord avec ça. On retiendra que la victoire. C'est Guillaume, supporter de Rennes, qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir Guillaume.
Salut les gars.
Bonsoir. Salut.
Bon, visiblement, tu t'es pas régalé ce soir. T'as gagné, ok, mais...
Oh, t'exagères, c'est un beau match. J'espère que vous
l'avez regardé. Tu te fous de ma gueule, toi.
Oh, mais vous rigolez ou quoi?
Si, tu te fous de nous, là.
C'est niveau 3e barrage Europa League. Oh, non. C'était nul, mais... Oh, là, là.
Je savais qu'il y avait un...
C'est chier. Pourtant, à Rennes, on est habitués, mais là, j'ai rarement vu ça.
Ah, t'as gagné au bout aussi, t'as gagné. Quand même.
Nous, on n'osait pas trop le dire.
Pas perdu, ouais.
On n'osait pas trop le dire, mais c'est vrai.
tu peux le dire. Mais après, par contre, il y a une chose que je veux mettre au crédit de Lamouchi, c'est qu'il innove. Parce que je suis pas sûr que dans l'histoire de la Ligue 1, on a déjà commencé un match à 10.
Ah, c'est-à-dire, tu l'as pas vu, c'est ça?
Bon, on était à 10. On a commencé à 10 contre 11. Direct, on s'est dit, bon, on est au-dessus, on va commencer à 10 contre 11, on va équilibrer les choses. Et le mec devant va mettre un mec de CFA ou de 3e div régional, et puis on verra ce qu'il arrive à faire. Quoi. C'est une honte. Je sais même pas comment un joueur comme ça a pu faire carrière. Il rate, mais alors, qu'il soit pas devant le but, qu'il rate des frappes, ok, ça peut arriver, mais des contrôles tout simples, il arrive pas à un contrôle de la cuisse qui est parti en touche, des choses mais aberrantes pour un professionnel. Et je sais pas la cellule de recrutement de Rennes ce qu'a fait en mettant 10 millions sur un mec comme ça. Mais c'est... Moi, je suis Pino et je fais un scandale. Je vire tout le monde.
Bah attends, tu nous parles de qui, là, Guillaume?
Bah de Sako.
Ah, putain, on n'a pas entendu le nom tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on cherchait...
Ah bah oui, il y en a qu'un qui est transparent. C'est... Non, mais c'est aberrant. Je sais pas ce que...
Bah après, enfin, alors, moi, je vais pas me faire l'avocat, hein, mais il a eu quand même pas mal de blessures. Il a souvent... Enfin, il a du mal à s'en remettre, on a l'impression, surtout, de ça.
Non.
Guillaume, ça joue
non,
aussi.
Que tu me dises qu'à la 60e, il est cramé parce qu'il a pas la condition. Ok, mais les bases du football, contrôle, passe, il y arrive pas. Le contrôle, il part à 4 mètres. La passe, elle est jamais dans les pieds.
Non, mais là, tu parles du match de ce soir. Après, il a...
Ah non,
c'est quand même un joueur qui a des qualités.
Bah, il a des qualités. Bah, donne-moi le nombre de buts qu'il a mis depuis qu'il est à Rennes.
Oui, non, après, ouais. Au niveau des statistiques, pour un attaquant, je reconnais que c'est important. Après,
bon, en fait, il a fait une première grosse saison à West Ham. Et après, bon, c'est surtout là-bas, hein, ils l'ont mis de côté, il a perdu le rythme, peut-être la confiance aussi. Hein. C'est un attaquant, le gars aussi, hein, ça joue aussi. C'est vrai qu'il a du mal à se relancer, Sako. C'est pour ça qu'il est à Rennes aussi. Hein. Comment? Il a cartonné, claque 20 buts, ouais. 20 buts sur deux saisons. Mm-hmm. Il part à West Ham, il met 12 buts en 26 matchs. Après, il redescend à 7 en 24. Et après, il fait 4 matchs, donc forcément, il joue pas, il marque pas.
Mais il a créé sa carrière sur deux saisons. Il y en a des mecs comme ça, hein, qui font
deux. Il a plus de deux quand même.
Et qui derrière font une carrière. Enfin, franchement, tant qu'on va pas recruter un vrai numéro 9, alors après le joueur de Ligue 2, on l'a pas vu, donc je peux pas me prononcer. Mais tant qu'on n'aura pas un vrai numéro 9, on fera absolument rien. Parce qu'on a un très bon milieu, hein, Bourigeaud, Grenier, Sarr. Je pense que c'est très très bon, hein, pour la Ligue 1. Mais il nous faut un mec qui plante devant.
Ok Guillaume, eh ben merci de nous avoir appelé en tout cas Guillaume.
Merci les gars, bonne soirée.
Ouais, ça vaut bien ta victoire parce que tu te régales visiblement. Donc. Allez, bonne soirée Guillaume, à bientôt.
Salut,
ciao. Allez, Rennes qui s'est donc imposé 1-0 face à Angers. Le prochain match du Stade Rennais, ce sera à Marseille. Et ouais, dimanche prochain. Et ouais, ce sera à suivre sur RMC bien entendu. Dans quelques instants, un mot également sur Caen. Il s'imbue partout entre ces deux équipes, supporters de Caen, supporters des Aiglons. À tout de suite au 32-16 avec Samy Poix et avec Sébastien Piocel. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'After Foot.